Cette session radio a été organisée dans le cadre du séminaire « La mesure des mondes, l'intelligence artificielle et ses environnements naturels » de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Bourges, en partenariat avec DU. Donc ce séminaire, dirigé par Ida Soulard, moi-même, et Andreas Maria Faure, a pour enjeu de s'interroger sur les nouveaux défis posés par les systèmes d'intelligence artificielle et la façon dont ceux-ci altèrent profondément la définition de ce qui est humain et de ce qui fait monde, dans un paysage culturel en pleine transformation. Donc dans le cadre du tour de ces nouveaux mondes que nous avons initié cette année, nous rencontrons aujourd'hui les artistes Eve-Gabrielle Chabanon et Esther Denis depuis les studios de DU à Montreuil. Donc bonjour Eve-Gabrielle.
Bonjour.
Et bonjour Esther.
Bonjour.
Et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Autour de la table également, trois jeunes artistes de l'ENSA Bourges. Théoa Hoth.
Bonjour.
Rivkao Ferrando.
Bonjour.
Et Xiao Xiao Wang.
Bonjour.
Donc ils sont étudiants, eux, en troisième et quatrième année et qui ont préparé cette conversation. À l'origine de cette discussion, il y a une visite collective de l'exposition de la Biennale Nova 2024 du Centre Wallonie-Bruxelles qui était sous-titrée Plurivers et contingence, une biennale dédiée à l'intrication artistique, scientifique et technologique, en mode féminin et non binaire et à l'aune de la quatrième révolution industrielle 4.0, qui nous a interrogés notamment sur les relations que l'on peut trouver dans vos travaux, Eve-Gabrielle, Esther, entre technologie, environnement et des formes d'engagement. Alors pour débuter cette conversation, j'aurais aimé que vous nous parliez un peu des deux pièces que vous proposez dans cette exposition. Donc Eve-Gabrielle, la pièce « Somatic Communism » au titre dialectiquement et savoureusement évocateur, et Esther, « L'étang », E-T-A-N-T, donc un titre aux significations également multiples. Donc peut-être avant de plonger dans chacune de vos deux pièces, une question un peu générale pour vous deux qui concerne la manière aussi dont vous voyez peut-être votre inscription dans le contexte plus général de cette biennale. Et comment, donc, qui avait ce titre très long, assez complexe, mais avec cette idée de l'intrication artistique, scientifique et technologique, et de voir un peu comment cette intrication peut-être joue dans votre travail, et d'autre part, comment la question du genre, qui était quand même au cœur de cette biennale, s'insère dans cette intrication.
Je pense que mon installation a intéressé Stéphanie dans la curation, dans le sens où elle s'intéresse dans la mise en place à des outils qui ont autant servi l'histoire de l'art que l'histoire des sciences. Et donc, une sorte de d'hybridation de ces objets où justement il y a moins la séparation, la distinction entre les sciences d'un côté et l'art de l'autre. Oui, cette idée aussi de plurivers dans le sens où il y a différentes histoires qui s'entremêlent et aussi différentes esthétiques, différents objets qui sont chacun issus d'un peu d'histoires différentes. Et je pense aussi qu'au sens, même des arts, elle est un peu en hybridation entre une forme un peu théâtrale et une forme art visuel. Et donc, je pense que c'est à cet endroit-là de hybridation qu'elle trouvait un peu son lien avec les autres œuvres qui étaient présentées aussi.
Moi, j'ai été un peu catapultée au dernier moment dans la curation de l'exposition. Et donc on est venu me chercher, ce qui est un peu différent de la façon dont ça a été pensé avec les autres, qui était plutôt un appel à projet, si je me souviens bien.
Moi j'ai été catapultée aussi, ah, du oui. coup.
Et donc voilà, je pense que c'est plutôt une vision, on va dire, curatoriale qui vient un peu interpréter des pièces que effectivement la commissaire connaissait déjà parce qu'elle l'avait déjà exposée dans une autre occurrence. Après, Somatic Communism, pour la question du genre particulièrement, c'est vraiment la question de comment le genre est façonné au contact des autres. Et donc c'était plutôt de ce côté-là, mais d'un point de vue, technologique, Moi, je m'implique plutôt dans quelque chose de très low-tech, de très DIY, et puis justement, au contraire, à chaque occurrence, essayer de soustraire un maximum de technologie, d'être de plus en plus dans une forme émotionnelle et moins fabriquée, entre guillemets, ou en tout cas plus craftée. voilà, donc je ne sais pas très bien si je réponds à la question. Mais...
Non, mais c'est... Je trouve que c'est très intéressant parce que c'était quelque chose qu'on ressentait, en tout cas dans l'exposition, c'était justement la part très organique, très tactile, très matérielle, avec une forme aussi comme ça de beaucoup de pièces qui étaient, qui répondaient d'une certaine manière plutôt à du low-tech que du high-tech. Donc ça, c'était... Mais peut-être on peut rentrer vraiment dans ces deux pièces que vous avez présentées. Et peut-être en commençant avec toi, Esther... avec la pièce L'étang, peut-être pour la décrire un petit peu, qui est une pièce, une installation immersive, qui est aussi visuelle, olfactive, plongée dans la pénombre. Donc c'est une sorte d'étang artificiel avec une nappe d'eau noire, un miroir de nacre, des narcisses, une pintade empaillée, une projection qui donne aussi du mouvement avec un aspect presque naturaliste à cette installation. Qui est une installation assez puissante, à la fois picturale, scénique et composée d'éléments dont on sent aussi l'existence symbolique. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette pièce, son histoire, puisqu'elle a vécu aussi d'autres existences avant d'arriver dans cette exposition, comment tu l'as conçue, et puis en détaillant peut-être aussi un peu l'histoire des différents éléments qui la composent.
Donc l'étang, c'est une installation... qui prend un premier appui sur la question de la représentation du paradis. En histoire de l'art, il y a une grande histoire de la représentation des imaginaires paradis, etc. Et à chaque fois, c'est fortement lié à la représentation de la nature. Et donc, je me suis intéressée aux dispositifs vraiment optiques qui ont travaillé sur cette histoire de la représentation. Et qui ont à la fois servi aux peintres et aux scientifiques. Et donc, il y avait tout cet imaginaire autour de la lentille, qui donc était utilisée par les peintres dans le dispositif de caméra obscura. Je ne sais pas si je le décris en deux mots. C'est donc un objet qui est face à une lentille. Et un certain éclairage permet en fait l'obtention de l'image de cet objet devant la lentille, sur un support. Du coup, par exemple, la toile du peintre, et donc permet de pouvoir ensuite décalquer et de pouvoir dessiner aux bonnes proportions une scène. Mais la lentille, c'est aussi un objet utilisé par les scientifiques, et je pense par exemple à Robert Hooke, qui lui a utilisé cet objet pour grossir et voir plus près des insectes, des plantes, etc. Et donc... Je me suis intéressée à ces objets-là qui sont aussi des objets intéressants parce qu'ils sont déjà dans la mise à distance du vivant aussi et de cette distinction, de cette séparation entre objet et sujet dont on parle beaucoup. Et donc avec un sujet vivant et puis sa représentation, cet objet en miroir. Et donc toute installation est un peu orientée autour de ça et autour de tous les objets qui ont donc transformé la nature en un décor et dont on perçoit aujourd'hui les conséquences actuelles de cette crise de la sensibilité dans laquelle on vit actuellement. Et donc là, j'ai convoqué donc la caméra obscura Lucida, comme je disais, mais aussi d'autres objets ou dispositifs dont le diorama, qui participe aussi à cette idée de la représentation de quelque chose, d'un fantasme aussi, parfois... d'une nature luxuriante, etc. Et aussi d'un objet, du miroir noir, qui était très important pour justement pour qualifier cette couleur d'eau noire sur laquelle se projettent ces formes humaines ou non humaines. En fait, le miroir noir, c'est un petit objet optique qui a fait sensation au XVIIe, XVIIIe, et qui a été utilisé plutôt par les peintres, et qui en fait donc était un miroir convexe, bombé, noir, et qui avait la faculté de, quand on le disposait face à un paysage qu'on trouvait beau comme un tableau, donc c'est avant l'arrivée de la photographie, donc il y a vraiment cette idée de cadrer l'espace, et il permettait de refléter l'espace naturel, mais en noir et blanc. Et donc, je trouvais ça assez joli de, voilà, de reconvoquer un peu tous ces objets qui ont un peu façonné notre rapport à l'histoire de l'art plutôt occidental, et de mixer ça avec des, aussi avec de la technologie plus actuelle, de vidéoprojection, de mapping, etc. Et donc, d'un peu conjuguer tous ces vocabulaires-là un peu, qui sont dans une espèce de suite un peu linéaire. Voilà, c'était ça le point de départ de l'étang, en tout cas.
C'est vrai qu'on parlait de cette impression d'arriver dans la biennale avec certains réinvestissements un peu en contre-pied de low-tech. Et je pense que quand on arrive devant l'étang, enfin moi personnellement en tout cas, il y a cette sensation presque de rétro-tech, presque. Et du coup, moi, je me demandais, avec tous ces réinvestissements, que ce soit sur cette histoire de l'image entre des techniques, entre l'histoire de la peinture et l'histoire de la photographie, et un réinvestissement de la mythologie, par exemple, comment est-ce que tu percevais cet ancrage dans quelque chose de presque rétro, au sein de cette biennale et dans la création d'un nouveau possible. Mais du coup, la fin de la question, ce serait comment est-ce que tu perçois ce réemploi de techniques presque rétro dans notamment le cadre de cette biennale dont la fin du titre est à l'aune de la révolution industrielle 4.0. Enfin voilà, comment est-ce que tu te situes là-dedans.
Oui, je pense que de la manière dont je me situe dans mon travail, c'est de justement jumeler, comme je disais, à la fois des objets très anciens et très contemporains. Et je pense que justement, ces objets anciens, ils ont été mis au service d'un certain rapport à la nature et d'un certain récit politique au final. Et donc ça m'intéresse de les réinvestir, de les mêler à des choses contemporaines et d'essayer de voir quels nouveaux récits ils peuvent aussi créer. De justement, si la nature n'est plus un objet, si elle n'est plus un décor. Toutes ces choses-là, je pense pas qu'il y ait une réponse comme ça... simple, mais en tout cas je trouve ça intéressant de réutiliser des outils qui nous ont déconnectés et de voir comment est-ce que sans les mettre à l'écart, en les réaffirmant, on peut en tirer d'autres substances aussi.
Moi j'avais, merci beaucoup pour ta réponse, mais j'avais aussi une question concernant le titre de la pièce, l'étang, E-T-A-N-T. Je sais qu'elle avait un autre titre avant cette pièce-là, et qui est un titre qui est à la fois très imagé d'une certaine manière et qui semble porter presque toute une histoire aussi de la philosophie, mais aussi une histoire artistique. On pense à Étant donné, la chute d'eau de Marcel Duchamp. On peut évidemment penser aussi des philosophies continentales. Donc il y a toutes ces significations multiples et en même temps tellement nombreuses qu'il y a presque une sorte d'effacement de ces significations dans le titre. Donc voilà, je suis assez curieuse de savoir comment tu as choisi ce titre et peut-être l'histoire du titre précédent aussi.
Oui, le titre précédent, c'était Paradis obscur. Et puis à un moment, je l'ai trouvé un peu kitsch, ce titre. J'avais en tout cas envie que, vu que je travaille sur le double, sur deux époques, un peu 17e et 21e siècle, qui est ce rapport en tout cas analogique dans le titre. Et donc c'est pour ça que j'avais choisi Paradis, qui évoque quelque chose de plus lumineux à obscur. Mais finalement, j'ai choisi Étang. Là aussi, il y a une forme de... Enfin, il y a un jeu de mots déjà, parce que... Quand on rentre, on est face à une sorte de petit étang. Et puis il y a étang, comme tu disais, qui fait référence aussi à la pensée de Heidegger, etc. Donc il y avait ce rapport double qui me plaisait dans ce titre. Et puis, quand j'ai commencé à mettre en place ma recherche sur le paradis, j'avais fait une série d'entretiens et tenté de définir avec les personnes avec qui je m'étais entretenue comment est-ce qu'on pourrait définir un paradis aujourd'hui, et pas dans un sens terrestre, mais vraiment de se projeter dans un au-delà, après la mort, etc. Et c'est assez intéressant parce que presque l'unanimité des réponses était être seul dans un espace naturel. Et j'ai trouvé ça... je crois que c'est vraiment nourri par les imaginaires communs, mais cette idée de vouloir être seul ensuite. Et puis ensuite, c'est la forme qu'a pris l'étang avec cette espèce de pupille blanche au centre, comme un grand œil qui nous regarde. Il y avait un côté très porté sur soi, sur Narcisse, sur un truc très... une sorte d'individualité et à la fois de faire partie d'un tout. J'aimais beaucoup ce changement de titre parce que je le trouvais plus comme tu disais, il met en lien des différents récits, mythologies, pensées. Donc il y avait un truc de superposition qui me plaisait assez aussi dans le rapport que j'ai à mon travail aussi.
Ben merci beaucoup. et c'est vrai que j'avais vu aussi que tu avais, il y avait peut-être la présence de Clément Rosset dans son livre Le réel et son double, où il y a évidemment avec le miroir, le côté spéculaire, la réflexion, quelque chose qui se joue quand même entre ce réel et irréel dont tu parlais. Peut-être Ève, Gabrielle, on peut aussi revenir sur la pièce que tu présentais, intitulée aussi avec un titre extraordinaire, Somatic Communism, et qui a donc cette présence très forte d'éléments organiques, donc qui sont des surfaces de mycélium cultivées dans une vitrine avec ces champignons qui poussent un peu graduellement. Est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu l'histoire de cette pièce et de son titre et de la présence de ces corps organiques dans cette vitrine?
Alors c'est une pièce qui naît il y a un petit moment d'une pratique qui n'est pas du tout une pratique artistique initialement, qui est moi ce que j'appelle une pratique du paysage. Donc c'était simplement dans mon atelier, je cultivais différentes espèces ou différents types de champignons pour le plaisir véritablement de les voir évoluer, grandir, vivre, et puis d'essayer de comprendre aussi ce système, on va dire. Et puis tout d'un coup ça devenait aussi une sorte de base assez poétique pour écrire et puis pour projeter. Et puis au fur et à mesure, ça a amené un certain nombre de lectures, notamment en mycologie, bien sûr, mais à d'autres endroits. Et donc voilà, c'était vraiment une sorte de tableau contemplatif que m'offraient ces espèces qui acceptaient de grandir et parfois pas aussi, qui refusaient. Et donc voilà, c'était une sorte de cohabitation d'atelier et de plaisir, essentiellement. Et puis c'est la commissaire Sophia Dati, avec qui j'ai travaillé un certain nombre de fois, et dont on est assez proche, qui un jour vient faire une sorte de studio visite, et on parlait à ce moment-là d'un nouveau projet, et elle me parle de polyphonie, comme une sorte de terme comme ça qu'elle voulait employer de manière assez symbolique pour ce nouveau projet. Et donc on parle de la polyphonie à travers ces champignons et ces corps comme ça qui m'entouraient, et de qu'est-ce qui fait un et qu'est-ce qui fait multiple, la difficulté par exemple de dire un champignon, en tout cas son corps face à son fruit d'une certaine manière qu'on peut voir, est-ce que c'est un ou des champignons qu'on a en face de nous, est-ce que c'est un corps unique qui se déploie de multiples façons, est-ce que c'est un corps pluriel, et puis voilà. Et puis aussi quelque chose d'important qui était que ces champignons, je les faisais grandir toujours sur un substrat, donc sur une base qui est à la fois leur habitat et leur nourriture, qui sont les vêtements des personnes avec qui je vivais. Donc ça a toujours été aussi... Alors ça commence aussi avec quelque chose de qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main, et puis dans mes lectures aussi de comprendre qu'il y avait des recherches qui étaient faites d'un point de vue, on va dire, écologique, de comment est-ce qu'on traite les déchets textiles qui nous envahissent et dont on ne sait plus quoi faire, mais également tous les éléments polluants qu'ils contiennent avec les teintures, avec les fibres, etc. Et donc, à ce moment-là, je vis dans une communauté d'une vingtaine de personnes qui se déploie sur différents bâtiments d'une ancienne brasserie désinfectée que Esther connaît bien. Et puis... Et donc, on a une pièce qu'on appelle la brocante et dans laquelle on met les affaires qu'on ne veut plus et qu'on réutilise, soit pour, de manière intime, soit pour se vêtir, soit pour reproduire des nouvelles pièces, des choses, etc. Et donc, c'est tout d'un coup, ces vêtements de coton, toujours, sont aussi les vêtements et les, on va dire, les enveloppes corporelles des personnes qui m'entourent et toute une réflexion qui se déploie à ce moment-là sur cette question de la communauté. Qu'est-ce qui fait communauté? Est-ce que c'est une communauté? Comment on se définit en termes de communauté? Et quel est l'effet de cette communauté sur nos corps et sur nos vécus à ce moment précis et sur nos systèmes d'interdépendance, on va dire.
Et je trouve ton concept particulièrement intéressant dans la mesure où utiliser le mycélium comme fil conducteur ou métaphore dans ton travail pour représenter un corps qui change et évolue constamment. Et vous, tu cites notamment les théories de Paul Preciado et de Chiara Bottici sur les études de genre, le féminisme et l'anarchisme. Et tu peux expliquer précisément comment il t'a inspiré?
Alors ça, c'est des lectures qui font partie de celles que j'ai citées, enfin des recherches, on va dire, qui viennent nourrir tout ça. Et c'est vrai que le mycélium, moi je l'envisage vraiment comme une trame aussi. Et donc, Esther, tu parlais de la toile et des projections, et il y a beaucoup de ça en fait. Et donc, ce qui me permettait d'écrire, parce que l'écriture fait aussi partie d'une pratique, on va dire, une gymnastique quotidienne, et puis qui m'aide beaucoup à conceptualiser, puis après à placer plastiquement des choses. Donc, les deux autrices que tu viens de citer, chez Preciado, alors le terme somatique communisme qui vient pas du tout de moi, donc, mais vient de lui, en tout cas dans ma découverte, m'interpelle. Bon, il y a différents endroits dans son travail dans lequel il en parle un peu différemment, mais le premier fois que je le rencontre et ce qui m'interpelle, c'est il définit ça avec quelque chose de très imagé, donc ça fonctionne avec mon développement de pensée, qui serait un peu comme dans un dessin animé, quand un toon attraperait une craie et au moment où il est bloqué, dessinerait une porte sur un mur, et ce mur serait celui de l'oppression sexuelle et de genre, et ouvrirait à partir de ce dessin cette porte qui deviendrait en trois dimensions et permettrait de s'y échapper, ou en tout cas de le traverser pour aller vers un au-delà, quoi. Et cette image était assez forte. Et puis plus tard, il en parle aussi, effectivement, comme le corps qui est construit à partir des autres corps en contre-forme de ces autres corps. Et donc cette image de cette porte qui s'ouvre sur ces questions d'oppression, notamment sexuelle de genre, et qui m'habite énormément au moment, qui sont vraiment voilà, quelque chose dans lequel je travaille, être de l'appui intime au moment où on développe cette pièce. Et donc voilà, je voulais que cette porte elle donne sur une vitrine qui est déjà un autre on va dire dispositif d'observation et de projection, et en même temps un autre dispositif de contrôle, puisque celui qui gère la vitrine est un peu celui qui gère qu'est-ce qu'on objectifie, qu'est-ce qu'on a le droit d'observer, et comment on décide que cet organisme, cette vie, cet objet doit se déployer, se donner à voir. Et donc comment, voilà, ça devient une espèce de mise en abîme comme ça, dispositif, et puis de comment on s'en échappe encore une fois, etc.
Et merci. Et une autre question. Les champignons me rappellent un livre d'Anna Tsing, Les champignons de la fin du monde sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme. Comme le titre le suggère, il s'agit aussi d'une remise en question du monde capitaliste. Et c'est le titre somatique communisme qui me fait penser à ces nouveaux agencements, ces systèmes d'interdépendance ou de symbiose entre humains et non-humains que performe ta pièce, qu'il me semble et qui porte des questions sous forme analogique, poétique. Un communisme ouvert aux non-humains, inclusif. Et est-ce que ce sont des questions qui t'animent?
Bah, je crois que c'est difficile de faire l'impasse sur ces questions aujourd'hui. Et oui, évidemment que ça, c'est assez prégnant dans ma réflexion globale. Je crois qu'au-delà même du travail et des formes qui en sortent, mais par rapport à cette pièce en particulier, il y a quelque chose effectivement très fort de là. Mais dans la manière dont je travaille de manière générale et dans l'environnement dans lequel je travaille influence et les conditions de vie, par exemple de ces champignons, si on revient sur les champignons par exemple, qui ont une vie avant l'exposition, pendant l'exposition, après l'exposition, et qui sont complètement hors de contrôle. ou en tout cas, je ne cherche pas à avoir de contrôle. Et puis, Enfin, c'est quelque chose auquel on a beaucoup plaisanté dans le fait que, par exemple, sur une autre pièce qui est faite, par exemple, avec les tissus résiduels de, justement de cette installation, qui nourrit donc une autre pièce, qui est une sorte de très grande, on va dire, collage, ou en tout cas broderie de ces tissus qui sont devenus presque des loques, qui ont été désagrégés, qui ont été digérés par le mycélium et qui ont tracé une sorte de décoloration à l'intérieur, donc une nouvelle trame. Et donc j'en refais un nouveau grand corps, comme ça, un grand corps commun. Et ce grand corps commun est aussi habité par les nombreux animaux et bactéries qui passent par cet atelier, entre les animaux qui partagent et qui ma vie au quotidien et ceux qui choisissent de s'infiltrer dans cet espace et qui sont aussi très... voilà, qui font partie de notre vie dans cette communauté à part entière et qu'on a décidé d'intégrer comme un fait et pas comme ni quelque chose qui nous est imposé, ni comme quelque chose qu'on a désiré parfois. voilà, donc c'est une sorte de cohabitation généralisée et qui nous permet aussi d'avoir un regard plus large. Et donc, oui, pardon, ces animaux sont toujours cités comme des co-créants et ces êtres vivants et ces organismes qui participent à ce que deviennent ces pièces.
Du coup, avec le corpus de texte dont on discute depuis tout à l'heure, je pense que je vise pas trop loin. Mais du coup, est-ce que dans ton travail, lorsque tu touches à tout ce qui est organique ou en tout cas non humain, est-ce qu'on peut y voir une espèce d'interprétation du code cybernétique de façon organique de Donna Haraway ? Ou est-ce que je vise complètement à côté ?
Bah, je crois qu'il n'y a pas d'à côté, ce que je trouve intéressant. Et puis, c'est comment le public, et donc toi, par exemple, te projette dans ce que tu vois à l'intérieur de cette pièce. Et en recevant vos questions, effectivement, ça ne fait pas partie de mon corpus premier, on va dire. Mais j'ai trouvé que c'était une interprétation assez pertinente et intéressante. Et je crois que j'aurais plutôt envie de t'entendre, toi, raconter ce que toi, comment tu l'utilises. Plutôt qu'essayer d'y répondre de manière maladroite, parce que ouais. Effectivement, c'était pas partie de mon cet imaginaire-là, mais je le comprends et je l'envisage dans l'angle que tu amènes.
Peut-être juste cette pièce que tu somatic communism, parce que tu disais Preciado, c'est les termes de Preciado. Il parle vraiment de communisme somatique.
Oui, c'est vraiment les mots utilisés, ouais.
Incroyable. Et je me demandais, parce que cette pièce, je crois que tu l'as faite pour une autre exposition, dans un autre contexte, c'est ce que tu racontais tout à l'heure, avec cette question quand même, là pour le coup, du genre qui était vraiment au cœur de cette pièce, peut-être de façon un peu plus générale et dans une question qui s'adresse à vous deux, Esther et Eve-Gabrielle. Tout à l'heure, tu mentionnais, Esther, cette idée de nouveau type de sensibilité et ça m'intéresse vraiment en fait cette idée et que j'ai l'impression de retrouver dans vos travaux de façon plus large que ces pièces là mais déjà très fortement existant dans ces deux pièces, c'est-à-dire cette idée vraiment de nouveaux types de sensibilité, d'une ouverture ou d'une refonte des sensibilités vis-à-vis alors de ce qu'on pourrait appeler de façon très peu vulgaire ou un peu commune, la nature, de façon avec une artificialisation ou au contraire une collaboration avec ces matériaux organiques, etc. Mais j'ai l'impression, voilà, peut-être plus largement, je ne saurais pas comment le nommer exactement, mais qu'il y a cette idée comme ça d'une tentative de produire de nouveaux types de sensibilité. Alors je ne sais pas si c'est peut-être un vocabulaire avec lequel... vous êtes à l'aise ou pas du tout. Mais en tout cas, c'est une grande interrogation pour moi de savoir est-ce qu'on peut nommer ou en tout cas essayer de s'approcher de ce que ces nouvelles sensibilités pourraient être. Voilà.
Oui, moi, dans ce vocabulaire-là, je sais qu'on parle aujourd'hui de crise écologique, mais aussi de crise de la sensibilité, justement. Et aussi, il y a un terme qui m'a intéressé, c'est la... l'idée qu'aujourd'hui, il faudrait repolitiser l'émerveillement face à ce qu'on dit, entre guillemets, la nature, et que nos nouveaux rapports à la nature vont se faire par l'idée de retrouver une fascination pour sa beauté, sa complexité, etc. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse je crois que j'avais aussi envie de faire tout simplement une œuvre que je trouvais belle et de travailler de manière assez simple sur la notion de beauté. Et je crois que c'est ce que je recherche dans la manière dont j'appréhende l'art en général, que ça soit au théâtre ou que je fréquente beaucoup ou dans les centres d'art, les musées, c'est essayer de retrouver un endroit un peu de sidération face à quelque chose. Et ouais, je pense que si on avait une attention comme celle-là à s'extasier devant un pissenlit, ou je sais pas, enfin il y aurait, je pense que c'est par cet endroit-là qu'en fait on peut aussi appréhender un nouveau lien.
Ok, merci. Et je sais pas si Eve, Gabrielle, tu veux dire quelque chose.
Ouais, je crois que cette pièce, je l'ai pensée un peu différemment de la manière dont je travaille d'habitude, et effectivement avec quelque chose qui est plus de... On parle souvent avec les étudiants avec lesquels je travaille en ce moment de la question du gut feeling, de la sensation qui passe par le ventre, de la pensée qui passe par le ventre. Et donc je crois que j'ai essayé de la composer aussi plus comme ça. Et donc tu parlais du fait qu'elle a été montrée plusieurs fois auparavant. Donc dans trois contextes, on va dire, d'exposition très 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 différents, avec des environnements aussi très différents, justement pour la survie de ces, ou la non-survie de ces champignons. Et à chaque fois, ce qui peut être un peu déstabilisant peut-être pour les commissaires des expositions, c'est que je ne sais jamais à quoi ça ressemblera véritablement. Et il y a plein de moments où à chaque fois ça évolue, quoi. Que ça soit dans les matériaux utilisés, dans les enveloppes, on va dire, qui vont contenir ces substrats et ces mycéliums, dans la façon de penser l'organisme de manière générale, et puis de les conditions, on va dire, de survie. Les machines ou pas, qui en fait effectivement au fur et à mesure disparaissent. Et donc il y a tout un... Et c'est vraiment un travail de composition à chaque montage, qui est celui dont je n'ai plus vraiment le temps dans l'atelier, parce qu'une fois qu'une pièce sort de l'atelier, souvent elle nous échappe et puis elle nous appartient plus tout à fait. Et c'est à la fois une manière de la re-rencontrer et puis de se réaligner ensemble un petit peu sur le moment et puis sur les réflexions. Je la considère pas comme finie parce qu'elle est sortie de l'atelier ou parce qu'elle ne m'appartient plus, entre guillemets. Et donc voilà, c'est cette question du sensible et puis de recréer un rapport du regard aussi et une rencontre. Je crois que j'essaie de la passer d'abord de manière, de la recentrer vers moi. Et donc, quelle rencontre moi je refais avec cette pièce et quel espace je nous donne un petit peu pour nous retrouver avant de l'ouvrir à une présentation au public et de la laisser comme ça seule.
Peut-être même de façon, je suis vraiment intéressée par vos deux réponses que je trouve à la fois très justes et très proches de ce que vous avez proposé vraiment en termes d'installation. Il y a quelque chose de très, c'est un peu, ça revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire de très immersif dans l'étang. Mais de très tactile, de très physique, ce que tu disais, du gut feeling aussi, dans un rapport très... Voilà, et c'est vrai que j'ai l'impression que ça crée quand même ce rapport à l'immersion, ce rapport à une sorte d'immédiateté, de rapport tactile qui est presque... qui était presque, on pourrait appeler, le cauchemar de Greenberg, c'est-à-dire vraiment le cauchemar d'un certain rapport à la plastique des années 50 aux années... presque au début des années 80, quoi, où cette tactilité, cette sensibilité presque physique du rapport à l'œuvre devient un peu prégnante, quoi. C'est pas vraiment une question, mais...
mais je pense que je peux rebondir, en fait, sur la curation.
Parce que même si vos deux œuvres sont très différentes, j'ai trouvé que mises côte à côte, elles créent une sorte de pont de ce qui fait lien entre notre devenir et notre passage vers celui-ci. Et vos deux travaux, ils expriment et ils impliquent une forme de changement, de projection de soi hors de soi, l'une qui prend forme plutôt avec toi et Gabriel dans la multiplication, l'évolution, une forme de décomposition aussi qui est exhibée au regard, et l'autre, plutôt pour toi Esther, qui est dans la découverte d'un lieu parallèle, presque éthéré, dissimulé et assez figé. Et j'ai trouvé que dans l'existence céleste et la révolution sociale qu'impliquent vos travaux, qui sont animés par la projection, bon, littéralement par un projecteur ou par le regard du spectateur au-delà de la vitrine, il y avait voilà, dans cet appel au naufrage ou à l'évolution une forme de révolution. Et je me demandais aussi quel lien vous faisiez dans la curation entre vous, quelle rencontre ça avait établi entre vous.
C'est une question difficile, je trouve, parce que bah, je crois qu'on était, on était ravis de... Moi, je ne savais pas que tu étais, faisais partie de l'exposition. Tu m'as reconnue de ces moments où on s'était croisés dans cette communauté bruxelloise et tu m'as rafraîchi la mémoire. Et puis, c'est toujours très agréable de découvrir le travail derrière les personnes qu'on côtoie, parce qu'on n'a pas toujours les espaces et le temps d'en parler. Puis l'envie aussi, parce qu'on a envie d'être aussi ailleurs que le travail, je crois, en tout cas pour moi. Mais non, je crois que, moi, c'est ce que j'aime le plus dans les expositions collectives qui sont souvent des c'est, moi, je compare toujours ça à un montage d'une exposition collective à un port. C'est vraiment, il y a tellement de personnes qui passent, qui travaillent, qui sont dans une urgence, dans un stress aussi. Et puis, en fait, tout le monde est très individualiste parce qu'il faut aller vite, il faut être efficace, il faut être capable de présenter au mieux ce pourquoi on est là. Et puis, il y a ce moment, tout d'un coup, la pression retombe, où les choses se mettent en place tout doucement. Et enfin, on peut commencer à voir en avant-première les pièces et découvrir les pièces de l'autre. Et ça, c'est une chance aussi, sans public, de pouvoir en discuter. Voilà, je me souviens que dans mes moments de pause de montage, je passais le rideau pour aller voir où en étaient les temps et le découvrir comme ça, progressivement. Et puis ensuite, enfin, de le redécouvrir. Et ça, c'est toujours aussi très joyeux de voir, de revoir les pièces au contact des publics et de voir comment le public décide de se positionner, de rentrer particulièrement dans quelque chose d'immersif comme ta pièce, etc. Enfin, de voir leur réaction vraiment physiquement et puis d'écouter aussi comment ça fait effet. Et ça, c'est extrêmement joyeux.
Oui, parce qu'il y a un lien très fort, en fait, entre vos deux travaux. C'est cette notion de diorama, d'observation un petit peu, et qui, en fait, se répond très bien, même dans des dispositifs curatoriaux très, très différents. Et pour rebondir sur ton travail, Esther, j'ai regardé un petit peu aussi ton œuvre Vitrine d'inflorescence, qui a été exposée lors de ton solo show à la Sainte-Anne Galerie. Et en fait, dans cette pièce, Narcisse s'est métamorphosé, donc ça répond très bien en fait à l'étang, et il a traversé le voile, et je voulais te demander où est-ce qu'il arrivait, s'il arrivait quelque part, est-ce qu'il y avait des palais immergés, emplis de nos trésors, gardés par des ondines, ou est-ce qu'il y avait nos sociétés futures? J'avais envie de savoir en fait comment tu projetais, et s'il y avait un au-delà, après la traversée de Narcisse.
Oui, j'ai prolongé un peu l'imaginaire de l'étang, en poursuivant du coup le mythe de Narcisse et aussi celui de Écho dont on parle moins. Donc en deux mots, donc Narcisse c'est ce personnage qui, amoureux de lui-même, tombe dans l'eau, se noie et de sa mort naît une Narcisse. Et Écho c'est cette nymphe qui le regarde, qui est amoureuse et quand lui meurt, elle est tellement triste qu'elle se réfugie dans une grotte. Elle pleure tellement qu'elle se dessèche et elle devient une pierre. Et donc c'est un mythe assez beau dans le sens où il parle vraiment de métamorphose au sens végétal mais aussi au sens minéral du terme et de la manière dont les êtres se transforment et aussi de ce nouveau rapport au géologique qu'on a aujourd'hui, de aussi reconnaître les pierres comme du vivant et... d'accepter les différentes temporalités, les différents cycles, à la fois hyper courts et à la fois extrêmement longs, qui composent vraiment un peu le système Terre dont on parle. Et donc pour te répondre, Narcisse, dans l'installation, il s'était du coup transformé en fleur. Et ces fleurs, elles étaient... Elles étaient sous des nappes de verre. Donc c'était un travail que j'ai réalisé avec une artiste vitrailliste. Et donc il y avait tout un jeu de rapport à la lumière et en rapport à l'eau aussi, enfin au liquide figé, à cette notion de qui rappelle aussi l'histoire des fossiles, de ces organismes qui se retrouvent figés dans la pierre. Ou ici figé dans ce verre, donc c'était plutôt cette trajectoire là qu'a fait Narcisse dans l'installation.
Je vois, c'était plus l'histoire d'une surface que d'un plein, quoi.
Exactement.
Tu vois. Et je me demandais aussi dans ton œuvre L'étang, quelle grille d'analyse au niveau du genre, des théories de genre, tu insufflais ou tu n'insufflais pas pour voilà, j'ai envie de t'entendre là-dessus.
C'est marrant parce que c'est la question du genre n'était pas tellement théorisée au tout début de l'installation. J'étais fort restée dans tout ce que je racontais avant, de dispositifs, histoire de l'art, histoire des sciences. Et puis j'ai récemment lu un texte qui relie les questions écologiques aux questions de sexualité. Alors c'est pas tout à fait je réponds pas tout à fait à la question du genre, mais il y a cette idée de nouveaux écrits. Enfin, pas totalement nouveau, parce que je cite normalement notamment Lynn Margulis, qui est une scientifique américaine, qui a beaucoup travaillé sur ce rapport à la sexualité au sein de la nature, mais au sens de vraiment de mélange des gènes et de nouvelles recompositions, et de quitter un peu ce rapport à l'évolution qui serait de le percevoir comme le grand qui mange le petit, le dominant, enfin un truc très binaire dans un sens, mais aussi de réinvestiguer tous ces rapports symbiotiques, etc., au vivant, et de vraiment percevoir l'histoire de l'évolution par cette histoire de la sexualité un peu multiple. Et c'est intéressant parce que L'étang va être exposé dans quelques mois à Aix-en-Provence, dans le cadre d'une exposition qui interroge la question du plaisir. Et du coup, je pense réinvestiguer, notamment à travers les vidéos que je projette dans l'installation, de plutôt investiguer ce rapport, ce lien entre sexualité et écologie aussi.
Pour le coup, quand on parle de relations symbiotiques, ça fait vraiment penser à Haraway et aux sociétés post-apocalyptiques qui, en fait, défont complètement cette vision d'union endogame ou exogame entre des humains et du non-humain. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup.
Pour rebondir du coup sur cette idée du post-apocalyptique et pour rebondir sur cette question que tu viens d'aborder, Rivkao, du post-apo et finalement des autres possibles symbiotiques que l'on est amené à voir dans vos travaux respectifs, moi je me demandais si la grille d'analyse de la science-fiction comme méthodologie de résistance par exemple, ou de réflexion, ou quelle que soit la méthodologie, avait déjà été quelque chose de présent dans vos processus créatifs, ou alors est-ce que c'est des choses que vous avez été amené à considérer dans le cadre notamment de la Biennale Nova XX par exemple?
Oui, ça fait vraiment partie des outils, je dirais plutôt d'écriture pour les pièces, notamment pour des pièces plus performatives entre guillemets ou plus participatives, où la science-fiction permet d'aborder des sujets délicats entre guillemets, en tout cas des sujets sensibles dans lesquels les émotions deviennent trop fortes pour véritablement lier dialogue. Donc la science-fiction, oui, je crois qu'il y a quelque chose de très fort en termes d'outils à différents niveaux dans mon travail, mais notamment dans l'écriture, on va dire, des trames pour tout ce qui est performatif, et des choses que j'ai pas mal utilisées sur des pièces qui étaient plus participatives, plus de rencontres avec différents groupes, parce qu'elles permettent en fait d'aborder des sujets délicats, des sujets dont les affects rendent difficile, on va dire, la rencontre et les conversations, sans passer par des extrêmes d'émotion. Et donc la science-fiction permet d'une sorte de biais, une sorte de décalage comme ça, qui permet de résoudre, on va dire, ces moments pour arriver à relier dialogue d'une certaine façon. Donc c'était surtout à ce niveau-là que moi je l'utilisais. Et puis au fur et à mesure, la question de la fiction, même au-delà de la science-fiction, est devenue vraiment une sorte de prisme comme ça de travail que je trouve extrêmement nécessaire et à différents niveaux, et puis aussi dans les références que j'utilise et où effectivement on parlait de Preciado, on parlait de Haraway, mais on pourrait aussi très bien parler de séries,
ouais.
On pourrait très bien parler de films, on pourrait très bien parler de musique, on pourrait très bien parler voilà de tout ce champ comme ça de paroles qui nous permettent de sortir d'un état en fait, et puis d'envisager ce qui nous manque aussi, ou au contraire de se projeter un pas plus loin et de se dire ok, on va vers ce mur là et on le sait, et voilà.
Est-ce que Esther, tu veux dire quelque chose là-dessus ?
Moi, j'avoue que j'intègre pas tellement la science-fiction dans mon corpus de recherche. J'ai pas tellement grandi avec ça non plus en imaginaire. Et en même temps, je sens que ça m'attire aussi. Et on m'en parle souvent, en fait, dans les retours que j'ai. De spectateurs qui découvrent l'installation, il y a ce rapport à la science-fiction qui revient souvent, mais moi c'est vrai que je ne l'ai pas encore intégré.
Okay. Merci pour vos réponses.
Moi j'aurais voulu peut-être rebondir aussi sur Eve Gabriel, avec ce dont tu nous as parlé tout à l'heure aussi de la manière dont tu travailles, la manière dont tu vis. Aussi qui semble quand même importante aussi et irriguer une partie de ton travail. Évidemment, on est dans une période politique qui semble mettre quand même largement en péril la question du commun, pour ne pas parler de communisme, mais en tout cas la question du commun. Et j'ai l'impression que dans ton travail, cette idée du commun, elle est récurrente, elle revient souvent. Tu as suivi le programme à Londres de la Open School East, qui a quand même pour cœur de son projet de créer un lien ou un pont entre les artistes et le tissu social, aussi du quartier, mais aussi associatif. Tu as travaillé à Béton Salon avec les étudiants de l'INALCO sur des productions d'objets de médiation. Alors ça, je suis très curieuse que tu nous en dises un peu plus, même si c'est un projet qui a été un peu bouleversé par la crise du Covid. Et puis ton projet, The Antisocial Club, The Chamber of the Dispossessed, la chambre des dépossédés, qui était présentée à la Fondation Lafayette et qui était une performance organisée comme une forme de débat public. Et un livre, The Surplus of the Non-Producer, qui raconte donc un projet au long cours et la dissémination, et on en arrive à ce qui m'intéresse vraiment, d'une pratique du commoning. Donc voilà, donc moi j'aimerais vraiment que tu nous parles de la façon dont cette question du commun, mais aussi de l'autogestion, de l'auto-organisation, des formes peut-être démocratiques, alors je ne sais pas si c'est un terme qui te parle, mais de forme aussi peut-être de parlementarisme. Voilà, de la manière dont tu mets en jeu cette question du commun, peut-être autant en termes de méthode et d'organisation que de contenu.
C'est une grande question. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs angles par lesquels je pourrais y répondre. Il y a effectivement toujours cette idée du commun. On parlait de cette communauté dans laquelle j'habite plus aujourd'hui, parce que justement, je crois qu'il y avait quelque chose aussi de l'ordre de choisir. Donc, moi, j'aime bien parler parfois de l'obsolescence programmée des relations ou des projets associatifs ou des choses comme ça. C'est-à-dire de ne pas attendre qu'il y ait un déchirement, une crise ou qu'on nous empêche, mais de décider de notre départ et donc de... Ce qui était un peu le choix avec cette communauté, de partir à un moment, voilà, de dire voilà, au bout de 2 ans, je m'en vais et je laisse une place à quelqu'un d'autre. Mais qui, effectivement, ça, cette vie. Et partir au moment où tout se passe bien et où les relations avec les autres sont super et donc qui peuvent continuer dans d'autres moments, d'autres endroits et via d'autres choses. Après, on parlait tout à l'heure, j'ai parlé d'interdépendance. Je crois que beaucoup de mon travail est sur la question de faire communauté ou d'aller travailler avec des groupes ou de tendre le micro pour pouvoir permettre une parole qui est finalement assez peu possible dans nos quotidiens et dans nos structures, parce que c'est créer des temps et puis c'est créer des moments hors qui déroutent, on va dire, ce quotidien. Et ça, je crois que ça fait vraiment partie des missions de l'art, d'une certaine manière. et donc qui dépendent pas forcément de l'espace d'exposition. C'est pour ça aussi que mon travail en fait se passe souvent et essentiellement en dehors de l'espace d'exposition. Et puis finalement il y a un moment de monstration, un moment de négociation, on va dire esthétique, pour faire passer à un second public. Mais le premier public et finalement l'essence de tout ça, c'est ce qui se passe en amont et avec qui et ses rencontres et qu'est-ce qui est possible. Et donc beaucoup de travail de recherche, de fond, de cartographie finalement. De comment rendre tout ça possible. Est-ce que c'est intéressant de le rendre possible? Et quel est le rôle de l'artiste à l'intérieur de ça? Quel rapport de pouvoir ça peut créer entre les différents participanteux, les financeurs, qui sont souvent des institutions d'art, etc. Et puis je fais un petit détour pour revenir sur le titre qui t'avait plu, sur le somatic communism, et sur l'idée du somatisme, en fait. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on définit comme somatique et comment on l'emploie au quotidien, ce somatisme? Et c'est souvent quelque chose qui est comme une sorte d'ordonnance assez mal reçue, en fait, quand on nous dit bah ça c'est somatique, en fait ça c'est toi, c'est dans ta tête, tu te le crées et du coup bah tu te fais souffrir, en fait. Et on parle pas du tout de l'ensemble des charges, en fait, qu'on reçoit à différents niveaux en fonction des communautés auxquelles on appartient ou auxquelles on a envie d'appartenir, ou pas d'ailleurs. En tout cas, ce qu'on nous impose en termes de charges au niveau de nos corps et au niveau de nos choix, et donc voilà comment on le somatise, en fait. Et de mettre en place ces moments de rencontre et ces systèmes de rencontre, on va dire, et de possibilités de dialogue, c'est d'une certaine manière une tentative de gérer ces charges, et, ou en tout cas de se rendre poreux et attentif aux expériences des autres et au déroulé voilà, de comment les exprimer. Voilà, je crois que c'est un peu tout ça.
Non, mais c'est vrai que je trouve très important aussi que tu mentionnes le fait que la plupart des processus se déroulent en dehors de l'espace d'exposition. Je crois que c'est vraiment une question aussi dans les écoles d'art qui se pose de plus en plus, avec des étudiantes qui ont des pratiques souvent qui se jouent en dehors des lieux de l'art et qui ont parfois vraiment plein de questions sur la façon dont on peut négocier ce rapport entre l'en dehors et l'en dedans. Et ce que tu dis très justement, c'est cette négociation esthétique que je trouve particulièrement riche. Donc ça se joue aussi dans tes processus de travail. Maintenant, peut-être une question qui reste un peu en suspens pour moi, c'est la manière dont tu fais dialoguer aussi différents champs. Donc j'ai utilisé ce terme un peu idiot du parlementarisme ou d'un rapport démocratique peut-être, mais cette idée de faire dialoguer différents types de personnes, différents termes, différentes disciplines aussi peut-être, que je pourrais t'adresser aussi comme question, Esther, puisque tu as souhaité rejoindre SPIP à Sciences Po, qui est aussi ce master qui avait été inventé par Bruno Latour, et qui se concentre sur ce qu'ils appellent des matter of concerns, donc des objets problématiques ou des questions un peu problématiques, et qui font dialoguer un certain nombre de disciplines autour de ces objets-là. J'ai l'impression que d'une certaine manière aussi chez toi, Eve Gabriel, il y a ce truc un peu des matters of concerns ou des questions problématiques qui se jouent dans le travail. Donc peut-être c'est une question qui est adressée à vous deux, mais peut-être Eve Gabriel, si tu pouvais nous raconter un peu aussi ce projet que tu avais initié à Béton Salon, ces objets de médiation, qu'on retrouve aussi peut-être dans un vocabulaire latourien, cette question de la médiation ou de la diplomatie, de la négociation. Si tu pouvais nous raconter un peu ce projet, ce serait super.
Alors c'est un projet qui est assez long et qui commence avant Béton Salon en réalité, qui était, on va dire, une des premières expositions qui regroupait un ensemble d'objets qui racontaient les différentes étapes de ce projet. Mais je vais essayer d'être bref parce que c'est vraiment on en a fait un livre pour parce qu'on n'arrivait pas à tout résumer. Mais ça regroupe beaucoup des préoccupations, on va dire, de mon travail et aussi des préoccupations, on va dire, matérielles de mon travail. Voilà. Et je crois que je reviens beaucoup dessus, justement, dans ce livre. C'est-à-dire ces pratiques socialement engagées, comme on les appelle aujourd'hui. Qui les finance, qui en bénéficie, à qui vraiment ça bénéficie réellement. et comment on fonctionne à l'intérieur en tant qu'artiste, quoi. Et donc ça commence avec la Fondation Lafayette, Lafayette Anticipation, qui à ce moment-là est en préfiguration et lance là, ses premières expositions, qui étaient une exposition collective aussi, et qui me propose de travailler avec une association qui s'appelle TOT, qui est une association de langue française pour des personnes en exil. Et donc la grande question était pourquoi est-ce que vous demandez à une artiste qui à ce moment-là travaillait à Londres, enfin et vivait à Londres, de venir travailler avec une association parisienne pour un moment de préfiguration d'une fondation et une nouvelle fondation qui s'ouvrait à Paris et tout ce que ça signifie dans le paysage politique et économique aussi. Et un moment de forte médiatisation donc d'un certain pouvoir publicitaire, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous attendez des différents participantes? Et donc, cette question-là a été très articulée au sein de l'équipe. Et voilà, donc le travail, il commence au sein de l'équipe. Je crois que c'est toujours important aussi de le dire pour moi. Est-ce que le dialogue se crée ou pas? Et quelle conversation? Et à quel point c'est prolifique? Voilà. Et ensuite, très vite, et voilà, les choses se sont déplacées. J'ai fait du volontariat, on va dire, dans cette... association, on s'est rendu compte de ce dont ils avaient besoin. C'était pas tant d'une exposition quelque part avec un artiste au milieu, mais finalement d'aide concrète, matérielle. Mais par contre, dans les rencontres que je faisais, il y a eu une personne importante qui était une avocate, à qui j'ai posé la question du travail, en fait, l'accès au travail pour ces personnes en exil, qui serait à peu près le seul point commun que je pouvais trouver entre les apprenanteux. Et puis cette question de l'accès au travail, les resserrer à ce qui paraissait être proche de moi, c'est-à-dire les personnes qui avaient des pratiques artistiques ou qui faisaient partie du milieu culturel. Et donc, qu'est-ce qui fait que la plupart des apprenanteux que je rencontrais avaient tous des pratiques et que la grande majorité était dans l'incapacité concrète, aujourd'hui arrivée en France, de continuer ces pratiques? Et qu'est-ce que ça me faisait à moi si on m'enlevait cette pratique qui en fait était aussi le pilier, on va dire, de ce qui me faisait tenir dans la vie, c'est-à-dire ce travail et la manière dont je m'identifiais dans ce travail et la place sociale que j'y trouvais. Donc voilà, le projet s'est concrétisé autour de ça, et puis il s'est développé avec d'autres associations qui étaient spécialisées, on va dire, sur le travail des personnes en exil avec des pratiques artistiques. Il s'est constitué aussi avec une première personne qui s'appelait Abou Dubaef, qui était stucateur, qui venait de Tchétchénie, et qui du coup travaillait avec des pigments naturels, de la colle d'os et du plâtre, et à partir de ça, recréer des marbres. Donc une technique assez ancienne qui était en fait européenne, qui a été perdue et qui est très très peu employée aujourd'hui. Et donc voilà, toute cette idée aussi de savoir-faire qui reviennent en fait aussi, qui retrace plein de parcours coloniaux, qui retrace plein d'histoires. Et donc qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne aussi dans les discours politiques sur l'immigration. Voilà, donc plein de choses se sont mélangées, plein de conversations se sont ouvertes avec des professionnels de différents champs. Et avec Abou, on a décidé de construire, on va dire, un territoire commun. Et pour ma part, c'était de dire peut-être que de faire une sorte d'alchimie comme ça administrative, et donc de prendre le budget de production de l'exposition et d'en faire un contrat salarié. Et ce contrat salarié permettait à Abou d'avoir accès à un contrat salarié et donc à un certain nombre de possibilités sociales, en réalité, que permet le salariat. et d'avoir cet accompagnement administratif qui reste quelque chose qui est un gros morceau à gérer. Et tout ça en association entre la fondation, l'administration de la fondation, cette médiatisation qui du coup bénéficiait d'une certaine manière, ce qui permettait de recréer un CV de la pratique de cette personne et de cet artisan, et puis le dialogue que nous on pouvait mettre en place d'un point de vue plastique, esthétique et d'intérêt mutuel en fait, simplement. Et en fait ce système-là, on l'a développé à l'idée d'un film qui était une sorte de grand projet hypothétique, qui nous a permis de rencontrer un certain nombre de personnes et de dire un film, c'est un peu une entreprise en soi. Donc, en fait, c'est aller chercher des subventions, les développer et payer tout le monde pour ce qu'ils font, en fait. Donc, voilà, repenser ce rapport à l'emploi aussi et à la pratique de ce côté-là. Et donc, comment on écrit ce film de manière commune, comment toutes ces pratiques sont valorisées, comment retrouver des pratiques qui sont souvent effacées dans ces parcours de migration et d'exil, mais aussi parce que c'est des pratiques qui sont souvent contestataires, des régimes en place dans les pays d'origine. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de les perdre en arrivant, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de se retrouver dans un moment de violence vis-à-vis de ces pratiques, de stigmatisation? Donc voilà, c'est tout ça qui était mis en place et qui touchait beaucoup de fils différents. Et puis voilà, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que ce projet n'a pas pu, on va dire, aller jusqu'au bout. mais qui, voilà, moi je parle beaucoup d'échecs profitables, et c'est vraiment un thème récurrent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'échec de ce projet? Est-ce que faire échec, parfois, c'est aussi permettre un certain nombre de choses et du coup un certain nombre de reculs? Il y a eu un certain nombre de tournages quand même qui ont été faits, notamment des moments, on va dire, de masterclass dans un lycée, et c'est là où Béton Salon rentre en jeu, qui en fait m'invite à faire des ateliers dans un lycée. Moi qui dis, mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas tout faire et je n'y arriverai pas. Et pour l'instant, je dois me consacrer à ce projet-là. Et puis, ils me disent, bah, amène ce projet-là. Et donc, on a fait avec l'équipe du film une sorte de masterclass qui permettait des workshops et des présentations des pratiques par chacun des intervenanteux à des lycéens en première et terminale sur tout un cycle assez long. Et un tournage qui permettait aussi de voir, en fait, plutôt que de cibler, on va dire, sur une forme un peu d'exotisation, d'esthétisme, comme ça, de la participation des intervenanteux, plutôt une réaction, en fait, à leur discours et à leur pratique de la part des lycéens et des lycéennes. Et donc, ces images ont été réutilisées pendant le montage de l'exposition à Béton Salon qui a suivi, mais également ce territoire qui est devenu une sorte de grand plateau de marbre, de faux marbre, d'une pierre que la nature n'aurait jamais pu créer, mais que du coup, on a repensé en fonction de ce que Abou m'expliquait de ses capacités. Et un certain nombre d'objets qui venaient raconter, on va dire, les dessous, enfin les coulisses un petit peu de production de manière assez anecdotique parfois, et puis parfois plus imagée. Et cette exposition s'est déroulée finalement sur trois occurrences, voilà, donc à Béton Salon, à Münster en Allemagne et puis au Beurs à Bruxelles. Et à chaque fois pareil, comme je fais souvent, elle est repensée, remontée, tous les films sont remontés, donc soit reprécisés, soit donnent en fait à voir à partir du même matériel, simplement dans le montage et dans l'édition, vraiment différents angles. Et voilà, et repensée en fonction des contextes et puis de l'évolution que moi je peux avoir par rapport au projet. Et voilà. Et donc, le livre dont tu parlais raconte plus ou moins ces processus, mais notamment en invitant beaucoup de personnes extérieures, parfois au projet, mais parfois aussi depuis l'intérieur, à écrire ou à participer en donnant des points de vue sur les différents sujets que ça soulève. Voilà. Donc, pas tant de raconter comme un catalogue pourrait le faire un projet ou une exposition, mais plutôt de l'ouvrir, on va dire, de manière plus large, sur des pratiques collaboratives, de commoning, comme tu as pu citer, sur les questions économiques, sur les questions de valeurs qui sont produites dans ces types de pratiques, etc.
J'ai oublié le début de ta question. Non, mais oui, c'est vrai que c'est vrai qu'elle était il y a longtemps, cette question. Non, une des questions, c'était cette idée justement de zone de médiation, de transdisciplinarité. Et en fait, j'avais mentionné SPIP et ton désir de rejoindre ce master. Mais en fait, peut-être plus largement que ça, il me semble qu'il y a dans ton travail aussi des formes de collaboration très ouvertes, et notamment dans ton rapport à la scénographie et à des formes multiples de collaboration avec des gens qui sont plutôt metteurs en scène. Et peut-être c'est plutôt de ça que j'aimerais t'entendre parler. Et puis je sais que tu as des collaborations aussi récentes en cours, et peut-être de cette dimension-là de ton travail, de ces types de collaborations et d'ouverture aussi du champ, justement avec cette oscillation entre art visuel et travail pour la scène et art vivant.
Moi, j'ai étudié donc la scénographie, d'abord à la Cambre, puis aux Arts Déco à Paris. Et j'ai vraiment axé mon intérêt de la scénographie par rapport au théâtre. Et donc, j'ai beaucoup fait je me suis beaucoup investie dans des productions théâtrales ou d'opéra. D'avoir ce rapport à la mise en place d'une œuvre commune et de travailler en commun avec plein d'artisanats différents, que ce soit la lumière, le son, la peinture, etc. Et donc, d'avoir cette idée d'un objet d'art comme la multiplicité de médiums. Et c'est ensuite, quand j'ai terminé mes études aux Arts Déco, qu'il a fallu du coup présenter une œuvre un peu signée de soi-même. Et je n'avais pas tellement cette habitude-là, parce que j'avais toujours été investie dans des projets, comme je disais, communs. Et ça m'a beaucoup plu aussi parce que je pense que j'ai donc travaillé sur une installation, mais pas toute seule. Et j'ai un peu réinjecté cette idée un peu
oui, de collaboration, de travailler pas seul, mais avec, avec différents médiums pratiques, etc. Et suite à ça, j'ai eu envie de mener un peu les deux lignées, à la fois la scénographie, les arts vivants, et à la fois l'installation et les arts visuels. Et j'essaye aujourd'hui encore de mener les deux. Et à chaque fois, j'essaye de... Oui, que les installations ou les scénographies que je propose puissent être à la fois des espaces dits indépendants et aussi qu'ils puissent être activés sur la scène, sur le plateau par des danseurs ou des comédiens, comédiennes, etc. Et de petit à petit un peu casser d'avoir une sorte de porosité un peu des espaces. J'ai l'impression que au théâtre, on essaie de plus en plus de faire du théâtre, pas que dans des boîtes noires, mais justement d'investir des espaces autres. Et j'ai la sensation que, oui, ce nouveau rapport à l'espace touche un peu l'art contemporain, etc. Donc je sens que tout ça commence à se rejoindre de plus en plus, de plus en plus homogène en tout cas.
Aussi pour toi, Eve Gabriel, à propos de la pièce encore Somatic Communism, où en fait je me suis senti happé dans la cage de verre assez vite, et je pense que parce que j'ai senti des intentions, enfin très vite j'ai pu y injecter, même sans lire le cartel ou l'explication qui était assez activement politique, mais vraiment des intentions décoloniales très fortes et une forme de lutte aussi. Et donc aussi pour revenir à cette dimension, tu vois, de laisser les gens un peu raconter et rencontrer aussi le récit qui a inspiré de cette pièce. Très vite, en fait, quand j'étais devant, j'ai eu vraiment, bon, par le biais de Preciado aussi, ces questionnements autour d'un corps en devenir qui attendrait ou n'attendrait pas un nouveau père, donc comme cette espèce de métaphore d'une société, voilà, aussi de contrôle. Et je me demandais, en fait, dans quelle société le corps communautaire, le corps social allait se réveiller, et si aussi cet enfant ou cette espèce de créature de tissu, de champignon, serait celui d'une sorte de révolution, ou alors celui à qui on aimerait donner la fin d'un monde décolonial, donc avec des logiques, enfin les problèmes qu'on rencontre actuellement qui auraient été contrés, est-ce que cette espèce de forme complètement coagulé par des vies différentes, n'était pas la métaphore en fait de nos gouvernances. Et je me suis demandé en fait si moi qui avais toutes ces réflexions-là étaient enregistrées d'une certaine manière par ce vivant qui était créé, qui était en train de pousser. Et en regardant au travers de la glace, je pensais en fait à toutes nos idées politiques. En fait, ça m'a mis vraiment en reflet et en miroir nos cerveaux qui accouchent de mythes ou de révolutions ratées, de la manière dont on regarde en fait les mondes potentiels et de l'organisme social qui nous contraint et par lequel on est forcé d'opérer et qui doit être notre lutte. Et puis, bien évidemment, la métaphore du champignon, qui a un corps qui envahit, qui est un parasite, qui a un corps qui passe les frontières aussi, les vêtements, qui reste et qui rentre dans le corps. Et dans notre contexte politique qui se fascise, où l'extrême droite est à nos portes, je me suis demandé en fait si tu avais fait, même de manière abstraite, une sorte de métaphore de l'extrême droite par rapport au mycélium, ou est-ce que tu avais établi des parallèles avec l'actualité qui est brûlante, des parallèles entre ton travail et ce qui se passe.
Déjà, je te remercie pour cette interprétation et c'est un grand plaisir de t'écouter. C'est marrant parce que tu te parlais de donc, cette cage de verre, et puis tu dis à travers le verre, etc. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de paroi. La vitrine est en fait une fausse vitrine. Et ça, c'était un choix aussi, d'enlever la paroi, d'enlever... Et quand tu disais, est-ce que ces corps et ces organismes sont en train de m'enregistrer autant que je les enregistre, c'était aussi cette volonté, en fait, de se demander depuis où se positionne le point de vue
Après, pour ce qui est de la question de l'actualité politique, cette pièce a été enfin, je l'ai débutée il y a plus de 3 ans. Donc, on n'était pas sur la même actualité, évidemment. Mais elle réagit à plusieurs formes d'oppression. Et c'est cette actualité politique est juste, on arrive à un moment très, comment dire, très concentré, on va dire, de quelque chose qui est latent et qui est évident et qu'on vit, en fait, de manière continue depuis plusieurs années. Et c'est pas une arrivée subite, mais plutôt un moment de dévoilement, en fait, de ce qui existe. Et donc, oui, évidemment, il y a une réaction à ça. Il y a une réaction à ça dans ces corps et dans l'utilisation des matériaux, effectivement, du mycélium. Tu parlais un petit peu aussi comme ça de où se place ce mycélium, etc. Et une des choses que je trouve importante et intéressante, c'est de dire qu'à contrario de nous, les champignons, quand on mange quelque chose, quand on l'intègre, on le met dans notre corps. Et le champignon, il met son corps dans sa nourriture. Il met son corps dans ce qu'il intègre. Et donc, et c'est pas pour rien donc, que j'utilise ces vêtements, en fait, et ces vêtements de gens qui m'ont entouré, mais qui aussi m'ont formé et déformé. De manière voilà, positive ou négative, voilà, on n'est pas, c'est pas binaire. Et voilà, donc ça parlait aussi de ça. Et effectivement, aussi pour la démonstration que vous avez vue dans cette exposition au Centre Wallonie-Bruxelles, l'enveloppe, on va dire, qui contenait, parce qu'il faut, j'essaie de toujours contenir pour que ça puisse quand même pousser, ne permettait pas de transparence, ne permettait pas de voir véritablement les vêtements, mais elles étaient faites de cuir. En fait, c'était que ça ressemblait parfois à des plastiques ou des choses comme ça, mais c'était que des chutes de cuir trouvées dans mon environnement immédiat, on va dire. Et donc, ce cuir, c'est des peaux et c'est des peaux délaissées qui ont été tannées de différentes manières et avec différents reflets et qui permettaient aussi, comme ça, de se revoir, on va dire, en reflet à travers ces peaux qui contiennent ces corps et qui contiennent ces corps qui se démultiplient dans d'autres, on va dire.
Merci beaucoup. Pour encore continuer sur ton travail, j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de fractures de forme, donc toujours aussi dans une dimension bourletée, quoi, enfin vraiment tenue, tendue et presque, enfin au bord de l'explosion, par des nœuds qui viennent fendre les courbes de ces corps. Et dans ton œuvre Eyes Closed, qui était exposée à München, je ne sais pas si je prononce bien, tu as conçu des tasses qui entourent au sol une chaise dépliable voilà, d'un tissu vert un peu translucide. Et donc, en fait, ces tasses, elles sont marquées par une sorte de point de suture jaune qui, en fait, revient aussi à cette notion de champignon. Je voudrais que tu m'en parles un petit peu.
Ouais. La pièce à laquelle tu fais référence, c'est les 100 mugs. Donc, c'est une pièce qui a été montrée à différents moments et que je reproduis à chaque fois. Et donc, pour l'expliquer rapidement... C'est donc 100 mugs que je produis, donc j'ai une pratique de la céramique utilitaire, donc vraiment de la poterie. Et c'est une pratique qui est vraiment quelque chose qui m'aide, moi, c'est mon yoga, voilà, c'est mon moment, on va dire, de pause pour réfléchir finalement à l'ensemble de ces projets qui sont souvent très très envahissants aussi et puis qui me demandent beaucoup d'énergie, voilà, donc c'est le moment de recentrer. Et dans l'exposition dont on a un peu parlé un peu plus tôt, sur le surplus du nom producteur, c'était une manière de visualiser, on va dire, de faire comprendre une forme d'économie de l'artiste dans ses pratiques socialement engagées, dans ses projets sans fin et sans fond. Et donc, elles sont vendues pendant l'exposition. Donc, ces expositions ne sont pas dans des galeries commerciales. Et cette pièce n'est pas montrée en termes de galeries commerciales. Donc, la vocation de ces espaces ne sont pas de vendre des pièces. Mais donc là, la vente de ces mugs suit une sorte de courbe qui a été développée par Sophie Kras, qui est historienne de l'art et qui a travaillé beaucoup sur les questions de multiples et d'économie développées par les artistes à différentes périodes. Et donc, elle a développé cette courbe dans nos discussions pour refléter ce que serait, on va dire, mon rapport économique à l'intérieur de cette pratique. Et donc, il y a 100 pièces numérotées, mais n'importe qui arrive dans cette exposition, la première, et choisit un de ces mugs au hasard. Et donc, ça sera le premier, on va dire, chiffre de la courbe qui est en dessous de ce que ça me revient de la produire, donc à perte pour moi. La deuxième personne choisit un autre mug, n'importe lequel, et donc ça arrive au deuxième prix, qui est un petit peu plus haut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, à la fin de l'exposition, d'une certaine manière, on voit ce qui reste, et quel surplus ça crée.
Et donc, il y a plusieurs formes. Et pour revenir encore plus précisément à ta question sur ces bourrelets, c'était la première fois que j'utilisais cette technique-là, on va dire en termes de céramique. Et c'est de la céramique, c'est de la terre. C'est pas du plastique, c'est pas... Et pour moi, c'était une manière de faire référence au kintsugi, qui est cette pratique, on va dire, de recollement par des matériaux, notamment de l'or, de la céramique brisée, mais aussi de dire qu'en fait, ce qui a été brisé une fois réparé a presque plus de valeur encore que ce qui était originalement. Et donc aussi dans un moment de reconstruction pour moi, dans un moment compliqué, on va dire, de ma vie, voilà, j'avais besoin de faire visualiser dans cette pièce aussi qui parlait de mon économie, qui parlait aussi donc, de ma capacité de survie en tant qu'artiste et en tant que personne, voilà, de ce moment de reconstruction et de dire qu'il y avait, voilà, qu'il y avait beaucoup de choses brisées, il y avait beaucoup de choses qui se brisaient au fur et à mesure, mais qui pouvaient être plus ou moins recollées. Et voilà, et donc ces formes, et là on parlait de négociation esthétique aussi, voilà, ça fait partie de ces négociations esthétiques trouvées au fur et à mesure. Et puis pour ce qui est de la pièce dans la vitrine, avec ces cordes effectivement qui viennent les resserrer, c'est à la fois est-ce que ça les contient, est-ce que ça les empêche, ou au contraire est-ce que ça les sécurise, est-ce que ça les relie, et voilà.
Merci.
Moi, peut-être pour revenir à cette notion qu'on a un peu abordée tout à l'heure des pratiques collaboratives, Esther, j'avais peut-être envie que tu nous parles un peu plus précisément de ce projet que tu mènes avec notamment la metteuse en scène Frédérique Atiwati, qui s'appelle Le Bal de la Terre. Voilà. Et éventuellement, comment se fait cette jonction, cette double casquette entre artiste plasticienne, donc plutôt dans des pratiques individuelles et ce genre de moment de mise en commun.
Ouais, j'ai rencontré Frédéric en 2020. Et depuis donc, bientôt 4 ans, on collabore ensemble sur ces projets de mise en scène. Elle aussi, elle a une sorte de double casquette où elle est à la fois chercheuse et donc metteur en scène. Et moi, donc, j'assume ma double casquette d'artiste plasticienne que je mets en soutien à la scénographie des pièces qu'elle propose, et donc notamment la dernière qui s'appelle Le Bal de la Terre. Donc c'est une coécriture. Donc c'est basé sur les recherches de son dernier livre qui s'appelle Théâtre du Monde, une fabrique de la nature en Occident. Et donc on partage aussi des obsessions communes dont je parlais précédemment dans la discussion. Et Le Bal de la Terre, c'est cette idée de comment est-ce qu'on peut tenter de faire contenir l'incommensurable en un objet, en une pièce, en un espace, ou etc. Et donc là, c'était l'idée de la Terre, de ses cycles, de tout ce qui compose le système Terre, et de s'intéresser à quels sont les objets qui permettent d'en parler, qui peuvent tenir dans le creux d'une main. Et donc ça, c'était des objets plus architecturaux ou vraiment matériel, mais nous on a essayé de transposer ça par le biais de la danse. Donc on a travaillé avec une chorégraphe qui s'appelle Madeleine Fournier. Et donc c'était cette idée de prendre la danse comme un motif qui s'est toujours lié un peu au météore, etc. Donc les danses des paysans, paysannes pour invoquer l'arrivée de la pluie ou l'arrêt de la sécheresse, etc. Donc toujours ce lien entre mouvement et enfin météore et danse, toutes les, par exemple la danse de l'érosion, la danse des carbones, toutes les chorégraphies terrestres qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui du coup créent ce mouvement commun mais aussi polyphonique, comme disait Gabriel. Et donc on a travaillé sur le rapport à la chorégraphie mais aussi le rapport au sonore avec Alvise Sinivia, et aussi deux acteurs, Duncan Evenou et Olivier Normand, qui eux ont pris en charge plus la dimension un peu textuelle et discursive du propos, parce que ce qui est intéressant dans le travail de Frédéric, c'est qu'à la fois on passe par des formes, mais qui sont aussi très chargées de ses recherches. Oui, là l'idée c'était de travailler sur un espèce de cosmogramme qui permettrait de définir un peu ce serait quoi la danse de l'anthropocène, après toutes ces danses un peu traditionnelles, ce serait quoi les nouveaux gestes ou les nouveaux les danses de ce qui n'est pas visible, de ce qui n'est pas humain, etc. Voilà.
Moi, j'avais encore une question pour toi, Gabrielle, à propos de ta pièce. Donc, on sort de la Biennale Nova. Dans ta pièce intitulée Chapter 3, Living in Reality, qui est exposée à la galerie, j'espère que je le prononcerai bien, Westfalischer Kunstverein, à peu près. Donc, il y a une pièce qui est une sorte de cadran avec un écran électrique qui est une sorte de terminal d'aéroport et qui est constitué par des médiums assez différents, du bois, du métal, qui ressemble à une sorte de boulier. On retrouve cette notion d'urgence où il est temps de cliquer ou de penser à l'après, je ne sais pas trop. Et dans ce travail-là, le terminal des contradictions et du droit au non-retour, forcément, vu le sujet de la pièce qui parle de la Palestine et d'Israël, je me demandais en fait comment maintenant cette pièce pouvait exister. J'ai vu que l'exposition elle s'est finie le 4 octobre, donc quelques jours avant l'attaque du 7. Et si tu acceptes d'en parler, au-delà de cette pièce-là, je voudrais aussi te demander ton engagement politique, comment il existe au sein des espaces institutionnels et maintenant, vu l'actualité politique.
Alors, juste pour replacer, c'est, au niveau des dates, c'est les bonnes dates, mais c'est quelques années avant.
Ah d'accord, ok.
Ouais, donc ça ne précède
okay.
De manière plus large, on va dire. Mais un conflit et des questions qui étaient déjà effectivement très présentes, de manière peut-être moins médiatisée, dramatique aussi sur ces événements particuliers. Mais ce boulier, en fait, il était avant tout fait pour sous-titrer l'exposition. En fait, il y avait toute une bande-son dans l'ensemble de l'exposition, et il permettait d'avoir accès dans différentes langues à cette bande-son, et du coup de pouvoir suivre de différents moments et différents niveaux, on va dire, ce qui était dit et ce qui était raconté, qui étaient les voix des personnes qui ont participé au projet du surplus du non-producteur dont je parlais plus tôt. Et donc ensuite, ces bouliers, parce qu'en fait il y en a deux, ont permis aussi de sous-titrer mon travail à différents endroits. Donc il y a d'abord une question d'accessibilité, en fait, qui a été posée pendant le montage de l'exposition. Cette pièce a permis, on va dire, un support à ces questions-là. Et ensuite, elle est devenue une pièce à part entière, entre guillemets, qui se détachait de ce contexte et qui pouvait être utilisée à différents endroits et qui me permet aujourd'hui de faire un display, on va dire, pour des textes qui sont ce que j'appelle les textes levains. Et c'est toujours une même situation, donc une sorte de conversation entre deux personnages, un narratoriste et son sa meilleure amie ou amie très forte qui incarne toute une forme d'amitié et d'entourage et qui vient un peu confronter ce narratoriste face à ses questions quotidiennes. Et donc un peu comme on fait du pain, il y a la structure du texte, certains paragraphes, etc. sont repris et réécrits en fonction des contextes et puis de ce que je développe dans mon travail. Et c'est souvent les textes d'exposition que je donne quand on me demande un texte d'exposition.
Ok. Mais donc c'est ce qui défile sur la...
Aujourd'hui, par exemple, quand je la montre, dernièrement quand j'ai montré cette pièce, c'était ce qui défilait.
Okay.
Et donc il y a ce texte, et puis ce texte, il est lu, parce que j'essaie toujours de l'accompagner pour qu'on ait un accès visuel ou un accès auditif, hein, et puis audio en tout cas. Et il est lu par des personnes de mon entourage et des personnes que, voilà, avec qui aussi je suis en conversation et qui me déforment et qui me forment dans les questions qu'elles posent. Voilà. Pour reprendre vraiment sur cette pièce-là, après, par rapport à mon engagement politique ou la manière dont ça peut se traduire dans les institutions, je crois que c'est une question qui est très large parce que c'est quelque chose qui varie en permanence en fonction effectivement des actualités, des lieux dans lesquels on travaille, des pays dans lesquels on travaille, où les espaces sont pas tout à fait les mêmes, où les capacités finalement d'agir, de parler, et en fait que cette parole soit relayée aussi, et puis en fait, pas juste écrasée ou effacée, il y a plein de choses qui peuvent se faire de manière différente. Je peux en parler dans un contexte d'enseignement, par exemple. Nous, on a un peu discuté en prémisse de cette émission au moment du café. Mais donc dans les conversations qu'on peut avoir avec les étudiants TEX, avec les positionnements, on va dire, d'un point de vue, on va dire, plus global du corps professoral dans l'école dans laquelle j'enseigne, qui est une école d'art, dans les textes que je peux écrire, et puis dans un quotidien, dans l'intime, dans les groupes que je peux rejoindre, etc. etc. Mais par rapport à l'institution, je crois que c'est pour moi, c'est une question qui se repose de manière permanente et je n'aurai pas de réponse évidente et toute faite à faire là en deux secondes. Je n'arriverai pas, je crois. Parce que des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi-même sur différentes périodes, sur la façon dont j'ai traité les choses, etc. On parlait de la Fondation Lafayette, par exemple, et du positionnement de « Ok, si on travaille ensemble, comment ça fonctionne ?» Et donc,
comment ça fonctionne pour vous et comment ça fonctionne pour moi, et est-ce que à quel point on peut aller loin dans cette conversation et à quel point on peut trouver une forme de consensus en fait à différents moments. Et donc c'est pas juste on parlait de consentement, enfin, quelque chose, voilà, on parle beaucoup de consentement aujourd'hui, et le consentement, on dit toujours, c'est pas quelque chose qu'on donne de manière indéfinie, c'est quelque chose qui se repose à chaque fois, et je crois que c'est aussi quelque chose, voilà, en termes de consentement dans un travail institutionnel, on va dire, et dans un soutien aussi financier. Ce consentement et cette manière de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, et ça se repose à chaque fois.
Oui, il y a cette question de la variabilité, en fait, qui est particulièrement présente, je trouve, à propos de ces sujets-là. Mm-hmm. Et oui, c'était une excuse un peu pour parler du fait qu'en fait, cette pièce qui représente aussi un engagement qui est contextuel, mais qui se déploie dans le temps, comment, en fait, à partir d'une pièce et à partir du contexte, ce sera tellement différent, la proposition, la monstration, l'acceptation aussi, ou la délivrance de son contenu. Voilà. Merci pour ta réponse.
Merci à toi.
Pour terminer et conclure un peu cette matinée, une dernière question. Quels sont les projets ou les idées sur lesquelles vous travaillez en ce moment? Voilà, de façon, ça peut être très concret, mais aussi de façon peut-être plus large, ou les textes que vous lisez, ou les choses qui sont importantes en ce moment.
Là, en ce moment, je travaille sur une pièce. Je suis en résidence au Théâtre National à Bruxelles. C'est une pièce de Nicolas Mouzet Tagawa, qui est un metteur en scène qui habite à Bruxelles. On travaille sur la notion d'institution, justement, sur l'institution théâtrale et aussi psychiatrique. On travaille sur l'objet rideau, un peu un objet très fort comme ça, très théâtral justement. Et on pose la question de qu'est-ce qu'il montre, qu'est-ce qu'il ne montre pas, qu'est-ce qui permet de dévoiler ou justement de cacher. Et comment est-ce qu'on rentre sur une scène de théâtre ou dans un hôpital, comment on en sort, etc. Et donc c'est un travail assez précis dans très très visuel et à la fois très référencé. Et on rencontre aussi beaucoup de personnes qui nous parlent de leur rapport à l'institution. Ça c'est pour le côté du coup art vivant, scénographie. Et moi en parallèle je travaille sur deux installations, l'une qui s'appelle Fanner. Et je travaille sur la taxidermie d'un faon robotisé. Donc c'est une sorte de faon qui a l'air de dormir. Il a une sorte de souffle qui a l'air de l'animer. Donc c'est un travail un peu sur cet état entre la vie et la mort. Et une seconde installation qui s'appelle Nymphae. Qui est un travail sur une fontaine peinte. Je ne sais pas si vous voyez les clavecins peints sur lesquels on peint parfois des paysages. Voilà, c'est une sorte de twist où je vais peindre un paysage naturaliste sur un artefact de celui de la fontaine. Voilà.
Merci Esther. Et peut-être toi, Eve Gabrielle, peut-être qui soit ce sur quoi tu travailles aujourd'hui ou ce qui t'anime en ce moment.
Déjà, je travaille à la production d'un corps parce que je porte un enfant. Et ça, c'est un travail, en fait, à plein temps, je crois. Et je ne le dis pas juste parce que c'est pas que dans un sens d'émerveillement comme ça, mais plutôt aussi parce que c'est du taf.
Félicitations quand même.
Merci. Et je crois que ça va prendre pas mal de temps aussi. Mais sinon, je travaille aussi dans une autre forme de gestation qui est celui d'un lieu. d'un lieu que je vais ouvrir là cette année et qui va me permettre une grande autonomie, qui est à la fois mon lieu de travail, bureau, production, atelier, etc. Mais aussi un lieu qui va être public, qui permettra d'accueillir des projets divers, des lectures. C'est petit, donc ça reste à une échelle limitée, mais voilà, qui et que je gère financièrement pour l'instant entièrement seul, donc sans soutien extérieur et donc pression extérieure. Et donc je vous le dis aussi parce que c'est un endroit qui accueillera des étudiants textes, qui accueillera des projets de traduction, donc de lecture comme je disais, de conférences, de rassemblements aussi, en fait, qui peut être utilisé par différentes structures à un besoin de se retrouver, de faire réunion. Et ça, ça voilà, c'est comment faire en sorte que ça soit assez accessible, mais que ça tienne aussi une certaine ligne, que ça puisse être utilisé par différentes personnes en fonction de certains besoins. On travaille aussi on est en train de sortir un livre là avec Barbara Quintin, avec qui je suis en train de monter une maison d'édition qui s'appelle Poulicroc Publishing. Ça fait rire les Belges, mais Poulicroc étant une spécialité, ou peut-être simplement voilà, une dérive culinaire belge. Et qui est une maison d'édition qui va être focus sur les pratiques socialement engagées autour de la cuisine, et donc du livre de recettes. Et donc le premier livre est autour du café culturel collectif qui était établi à Aubervilliers, qui a été fermé il y a quelques temps par la mairie, et donc qui raconte pas tant un lieu qui est fermé, mais plutôt quel possible ça a créé, et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour refaire en fait, plutôt qu'avoir l'impression qu'on part de zéro, parce qu'effectivement quand ces lieux se ferment, ils s'effacent, aussi par l'épuisement des équipes et par la violence, on va dire, de ces fermetures. Et voilà, donc quel précédent on garde et comment on peut reconstruire à partir de ça, à travers notamment des recettes de cuisine également et un certain nombre d'autrices. Et puis, je crois que je travaille aussi à un texte littéraire qui sort complètement du contexte de l'art et qui est vraiment aux prémices, mais qui me permet beaucoup de gérer un certain nombre de choses et de faire de la place. et voilà, ça, c'est un autre chantier, une autre découverte aussi de pratique pour moi, et c'est assez agréable.
Beaucoup de projets pour cette année à venir. Merci infiniment, Esther et Eve-Gabrielle, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions, à nos interrogations ce matin. Et puis, on va suivre évidemment l'évolution de vos travaux et de vos propositions, en espérant aussi venir vous voir peut-être à Bruxelles. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci énormément.
Merci beaucoup.
Merci.